Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Jérôme Dédéian.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, associé de toutsonmesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Gilles Ravot, bienvenue.
Bonjour Nicolas.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Vous avez publié Économie, on n'a pas tout essayé. C'est au seuil. Et Romain Rivaton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Stonal. Rappelez-nous qui est Stonal. Parce que c'est une nouvelle vie pour vous quand même.
Stonal, c'est une plateforme de gestion pour les grands propriétaires d'actifs immobiliers qui leur permet de piloter leurs ESG, de réduire leurs coûts d'entretien et leurs coûts de travaux. Et donc on est déployé aujourd'hui sur 200 millions de mètres carrés.
Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous avez publié Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire. Compte tenu de la situation, on a bien vu, Gilles Ravot, que Bercy a décidé d'étaler sur 2 ans et pas une année la fin de la CVAE, estimée à 8 milliards d'euros. 4 milliards, on peut se le permettre en 2023, mais 8, c'était pas possible. Sinon, on explosait les 5% de déficit. Il faut des poires pour la soif quand on est dans une majorité compliquée comme celle que connaît aujourd'hui le gouvernement face à l'Assemblée nationale. Et là, il y a des députés qui se disent que, non, cette CVAE, on parle pas de cadeaux aux entreprises, mais on voit bien l'idée qui est derrière. Il faut pas tout simplement la supprimer, il faut abandonner la suppression. Vous en pensez quoi ?
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce qu'on peut rappeler, donc cette fameuse cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, comme en fait la plupart des autres impôts de production dans notre système effectivement un petit peu compliqué français,
un petit peu
socio-fiscal, ça finance les finances locales en fait. Donc ça, c'est quand même, ça pose quand même des problèmes pas du tout triviaux, puisque effectivement l'État promet qu'il va compenser. Le problème, c'est est-ce qu'il va le faire ? Et ce qu'on sait, c'est qu'évidemment ces impôts, forcément la recette a tendance à augmenter chaque année normalement avec le développement de l'activité. Il n'est pas du tout sûr que la compensation de l'État augmente comme les recettes auraient augmenté. Et on sait que les collectivités locales quand même connaissent d'importants problèmes. On l'a vu, c'est pas du tout anecdotique avec les problèmes des piscines cet été. Ensuite, on a les régions là, qui nous expliquent qu'il va falloir fermer les universités cet hiver à cause du chauffage, etc. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au printemps, la majorité...
Mais là, vous allez un peu derrière est-ce qu'il est légitime et nécessaire de supprimer enfin ces impôts qui pénalisent la compétitivité des entreprises ? Après, la tuyauterie qui fait que l'État tient sa parole ou pas avec des recettes de TVA redistribuées aux collectivités locales, on est sur un sujet, j'irais une deuxième bande du billard, mais la première bande du billard, c'est nous avons des entreprises qui sont étouffées d'impôts de production.
Je trouve que ça pose quand même... là aussi, c'est quand même un renouveau démocratique que moi j'attendais d'Emmanuel Macron. Je trouve que c'est quand même compliqué quand l'État, effectivement, légalement, peut décider de supprimer une ressource qui ne lui va pas. Je trouve que ça pose un problème de gouvernance.
Mais c'est pas sur ce terrain-là que les députés voudraient.
Je suis d'accord, qui n'est pas trivial. D'autre part, effectivement, moi, je ne suis pas du tout. Il y aurait une discussion qu'on pourrait avoir dans l'absolu sur la baisse des impôts de production. Moi, comme vous le savez, ça fait un moment que je suis extrêmement inquiet par l'explosion de la dette publique française, donc qui va nous coûter en service d'intérêt comme à peu près 60 milliards d'euros.
Meilleur scénario.
L'année prochaine, c'est quand même une somme complètement folle, c'est le budget de l'éducation nationale. Et je voudrais juste dire, donc c'est un peu brutal, mais quand même c'est pas faux non plus, qu'au printemps, la majorité présidentielle nous avait dit que le chèque alimentaire était indispensable, c'est une priorité. Vous avez vu qu'on n'en parle plus, effectivement Bruno Le Maire a annoncé que c'était abandonné. Avec les 4 milliards là qui vont être perdus, la suppression de la moitié de la CVAE est effectivement décidée. C'est 4 milliards de recettes qui sont perdues pour l'État. Avec 4 milliards d'euros, vous pouvez donner 1 000 euros à 4 millions de familles. Et il y a de plus en plus de gens qui ont faim aujourd'hui en France. Tous les témoignages des associations le disent. Il y a même plein de témoignages de caissières qui vous racontent que vous avez des gens, même de la classe moyenne, qui, arrivés à la caisse, retirent des produits parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir. Des gens qui allaient dans des marques normales qui vont maintenant chez des hard discounters. Des témoignages très très nombreux. Je pense qu'il se passe quelque chose d'assez grave dans notre pays et que ça serait bien que le gouvernement en prenne la mesure.
Vos avis, Robert Rivaton et Jérôme Dédéian, sur... Bruno Le Maire n'a pas du tout l'air d'être sur la ligne de « je renonce à ce que j'ai dit ».
Il y a une règle en fiscalité et on l'a plutôt suivie depuis...
La stabilité.
On l'a plutôt suivie depuis maintenant la moitié du quinquennat de François Hollande, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est une trajectoire de stabilité. Et on envoie des signaux, ces signaux sont plutôt bien respectés, ça permet aux entreprises de prendre des décisions d'investissement, de production, d'embauche, et ça marche plutôt pas mal quand on regarde la progression de l'investissement. investissement productif et l'évolution des embauches dans notre pays depuis maintenant 7 à 8 ans.
Pour la première fois, on a eu de la stabilité fiscale en France. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps.
Et dans tous les pays qui ont réussi à faire des transitions, ils ont donné un cap et ils l'ont tenu au-delà de l'ambition qu'on peut donner dans la transition. Sur la CVAE, il y a eu un engagement qui a été de dire de la supprimer. Ça serait très très compliqué et très malvenu de revenir sur cet engagement.
Il a été étalé dans le temps.
Ça peut s'entendre. Les circonstances ont évolué. Il y a eu une crise Covid, il y a eu une crise énergétique.
Non, mais Gabriel Attal le dit, si on faisait les 8 milliards, on dépassait les 5 de déficit, on ne voulait pas dépasser les 5 de déficit. C'est pas plus compliqué que ça.
Ça s'entend. Hein. Après, la plus grande question, et ça me permet de revenir sur un rapport que j'avais écrit avec Vincent Pavanello il y a maintenant 8 ans, qui était de dire qu'il faut faire un effacement parallèle. C'est-à-dire qu'effectivement, on a ces impôts de production qui sont extrêmement pénalisants dans notre économie, puisqu'ils viennent frapper avant même qu'on ait fait du profit. Donc ça, c'est quand même sur le... N'importe qui peut comprendre que si on vous demande de l'argent avant de débuter votre activité, évidemment, ça favorise les plus gros qui sont déjà en place et les nouveaux entrants ont du mal à rentrer sur le marché. Supprimer ça, mais effacer en parallèle une partie des aides aux entreprises. Alors, c'est un maquis compliqué. Bruno Le Maire a évoqué cette hypothèse la semaine dernière en commençant à dire au MEDEF, si vous voulez qu'on touche face des réductions très importantes, il va falloir qu'on regarde aussi du côté des aides. Alors, les aides, c'est extrêmement compliqué aussi. Parce
140
que...
milliards d'aides et subventions.
Il y a
du crédit d'impôt, il y a tout dans ce
Il y a la TVA taux réduit dans les 140, donc il y a plein de choses qui vont pas aux entreprises à TVA taux réduit, ça ne bénéficie pas vraiment aux producteurs, ça bénéficie aux consommateurs, donc compliqué à détourer, mais grosso modo, vous avez 60 milliards qui sont sur des filières très spécifiques.
Oui.
Vous avez l'outre-mer, vous avez le transport, vous avez une partie du BTP, enfin bref, on a tout un ensemble de filières qui sont plutôt des filières protégées de la concurrence internationale, à qui on aide un peu plus. Est-ce qu'un jour on se dit qu'on est prêt à revenir là-dessus? C'est explosif. Mais c'est sans doute la seule façon pour, à l'avenir, je parle pas de maintenant, je parle sur un petit peu du cadre de la CVAE, si on veut aller plus loin que la CVAE, fameux ces impôts de production, pendant le débat de la campagne présidentielle, on a beaucoup parlé, si on veut aller plus loin, ça ne passera que par un effacement parallèle des aides aux entreprises.
Alors c'était Jean-Marc Daniel qui a signé un article dans Les Échos qui développe exactement cette idée, mettant 140 milliards de prélèvements face à 140 milliards d'aides, d'allègements, de ristournes, de crédits d'impôts, de tout ce que vous voulez, et on se dit, mais comment on prélève 140 et on donne 140, il y a un truc qui va pas.
C'est mais le taux des prélèvements obligatoires le plus dingue du monde, puisque en fait, c'est ce qu'on appelle... C'est de la fausse dépense fiscale. Donc
le problème, c'est que si on... Ça a l'air hyper évident de se dire, ah bon, on va faire 140 d'un côté, 140 de l'autre. La liste des perdants est un truc ingérable. Parce que vous en avez qui vont être ultra perdants d'une bascule de genre. Bon, par rapport à la CVAE ou à ce que disait Robert Rivaton...
En fait, je refuse qu'on pose la question, faut-il supprimer la CVAE? Parce qu'on a décidé de supprimer la CVAE, on l'a annoncé.
Oui, mais le débat commence là.
Les gens, ouais, ben je sais bien.
Ben oui.
Et donc, je vais pas refaire le coup de la stabilité. On a fait une promesse, il faut la tenir. Ça me semble essentiel. Après, Gilles est allé très très loin. Je pense qu'on mélange un peu les sujets. On va avoir un sujet d'extrême paupérisation. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là qu'il va falloir traiter. Il va falloir le traiter, mais pas au prix de la remise en cause de la suppression de cette taxe idiote qui frappe les boîtes en haut du compte d'exploitation avant même qu'elles aient commencé à bosser et qui leur donnerait du mou pour être capable d'être agile dans une période où, en ce moment, c'est pas très compliqué, enfin, c'est pas très très facile pour les chefs d'entreprise de faire des prévisions, de regarder comment ça va se passer sur leurs marges, compte tenu de l'inflation qu'on se prend sur les coûts matières, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la tenue de la promesse. On a très bien réussi depuis à peu près, allez, on va dire, le dernier tiers du quinquennat Hollande à tenir les promesses de baisse d'impôts qu'on avait faites aux chefs d'entreprise. C'est très important pour la mobilité de nos boîtes. Il faut trouver l'argent ailleurs. On peut le faire quand on a un problème qu'il y a trop de perdants. Si jamais on commence à supprimer des subventions, il faut le faire de façon très simple. Il faut dire, j'écrète petit à petit sur longue période un petit coup de rabot chaque année sans se poser de questions. Et les gens s'ajustent. Hein, ça donne le temps aux gens qui bénéficient de ces trucs ciblés de s'ajuster, d'ajuster leur modèle économique.
Super compliqué.
Bah, compliqué.
Oui, oui, mais bon, il faut oser attaquer les choses.
Dès qu'on rentre dans le détail, on est mort.
Oui, oui, mais
on est mort. Dans chaque niche, bien sûr. Donc, dès qu'on rentre dans le détail, on est mort parce qu'on a le lobby machin et le lobby machin et le lobby machin. Il faut réduire petit à petit, progressivement, en donnant des perspectives, en disant pendant 6 ans, je vais diminuer d'un sixième telle subvention, et puis ça laisse 6 ans pour ajuster son modèle économique.
Bon, devant l'urgence sociale, il y a quelque chose qui s'appelle le chèque énergie, mais en fait, vous oubliez le mot énergie. Le chèque énergie est un chèque qui est versé en cash par les pouvoirs publics à des ménages modestes. Ils sont au nombre de 5 800 000 aujourd'hui. Le gouvernement, s'il veut apporter une aide supplémentaire à des gens qui, au-delà de l'énergie, ont même du mal à s'alimenter, il peut tout simplement doper ce chèque énergie. Oui, ce chèque énergie.
Dernier commentaire sur ce qu'on a dit sur les dévastements parallèles. Vous avez quand même le Conseil d'analyse économique qui a commencé à tirer sur le crédit impôt recherche, ça ne pourra pas échapper, qui est un bout non négligeable dans cette pyramide des aides. Et c'est, je ne sais pas si c'est un signal précurseur de ce qui peut être la suite du débat, mais on sait que c'est quelque chose qui revient de temps en temps.
Et il y a objectivement des vrais effets d'aubaine avec le crédit impôt recherche pour les grandes entreprises.
Je vais vous en citer un.
Allez-y,
je vois tous les jours dans mon activité. Vous avez en France pas mal de sociétés, des structures juridiques qui sont incorporées par des groupes étrangers, qui sont des centres de R&D qui vivent plutôt bien du CIR et qui, le résultat de leur recherche n'est pas fait pour créer des emplois et de la production en France. Ils vont utiliser ce résultat-là subventionné par la France pour aller installer leurs établissements de production ailleurs qu'en France. Et donc là, il me semble qu'on devrait au moins remettre un lien direct entre je subventionne à coup de cire ta R&D qui est localisée en France, à condition que je puisse mesurer que le résultat de cette R&D donne lieu à la création de richesses en France dans la durée, c'est-à-dire d'outils de production.
Bon, tous les effets d'aubaine du crédit pour recherche sont parfaitement identifiés, tout le monde le sait. Alors, trouver l'argent ailleurs, ça m'offre la transition, Gilles Ravoux. L'Espagne crée un ISF temporaire. Au-delà de 3 millions d'euros nets de patrimoine, ça fait 0,1% des contribuables en Espagne, 23 000 personnes, et bien il y aura une taxation en 2023 et 2024. Je me souviens de Benjamin Coria, économiste atterré sur ce plateau, disant « J'admets, dit-il, que l'ISF n'est pas un rendement, mais c'est un signal. » Et il y a des moments où les signaux sont importants. Et en même temps, l'Espagne décide de baisser l'impôt sur le revenu des gens qui ont moins de 21 000 euros à l'année. La circonstance, est-ce que ça justifierait que d'autres pays fassent comme les Espagnols, selon vous ?
Moi, je trouve que le gouvernement espagnol, depuis plusieurs années, en fait, mène une politique que je trouve intelligente, au sens où, justement, il prend en compte les inquiétudes de la population. Je pense que, vraiment, au-delà de tout ce qui a été dit, je pense que vraiment une des erreurs d'Emmanuel Macron depuis qu'il était ministre de l'économie, c'est qu'effectivement il s'adresse uniquement soit aux entreprises et quand même principalement aux grandes entreprises. En réalité, il y a assez peu de choses qui a été fait pour développer le tissu industriel ordinaire, ce qui est quand même une erreur. D'autre part, effectivement, on va en parler tout à l'heure sur les retraites, il s'adresse aux investisseurs internationaux financiers, à la Commission européenne. On voit très bien que son regard est tourné vers ces gens-là et vers l'extérieur, et qu'à l'inverse, il prend effectivement des mesures plutôt régressives à l'égard de la population. Et si vous voulez, moi, comme macroéconomiste, je pense que c'est une profonde erreur, au sens où il crée énormément d'inquiétudes chez les gens ordinaires, ce qui se traduit, on le sait très bien, par la surépargne des Français et tout ça. Alors qu'à l'inverse, le gouvernement espagnol, par exemple, alors en plus, ils ont utilisé un argument technique rigolo du fait de la péninsule ibérique, qui sont sortis de l'absurde marché européen d'électricité, qui est sans doute le marché légal
l'exception ibérique, obtenue au mois de
le plus absurde qui a jamais été créé.
Ça marche très bien quand tout va bien. Ça dysfonctionne totalement quand tout va mal.
Non, pas du tout.
On va pas ouvrir ce dossier.
À tous les niveaux, non.
Bon.
Pas du tout. Bon. Et vraiment pas du tout.
On est pas d'accord, mais bon, c'est pas grave.
Mais
allez-y, continuez sur votre idée.
Et effectivement, ça fait plusieurs fois que, notamment, par exemple, quand ils ont augmenté déjà la taxe sur les énergéticiens en Espagne avant tout le monde, ainsi qu'au Portugal, ils ont utilisé, même si on sait bien qu'il n'y a pas de règle de fongibilité fiscale, mais ils ont utilisé cet argent, par exemple, pour rendre les transports en commun gratuits dans les banlieues des grandes villes, pour augmenter les bourses aux étudiants. Et ça me paraît juste de la bonne politique, si vous voulez, social-démocrate, intelligente, qui stabilise les attentes de la population. En France, on voit bien qu'il y a une inquiétude énorme, et le fait que le gouvernement, de façon répétée, refuse justement soit de nous aider dans les services publics, soit de prendre des mesures comme ça qui montrent aux gens que les efforts sont partagés. Je rappelle que l'économiste en chef de la BCE, l'ancien gouverneur Philip Lane, vous en avez parlé la semaine dernière, l'ancien gouverneur quand même de la Banque d'Irlande, Tess d'Harvard, enfin un économiste ultra orthodoxe, qui vous dit qu'il faut augmenter les impôts, avec un raisonnement qui est parfait, en disant il faut aider les entreprises et les ménages les plus en difficulté, et en plus quand je prends des impôts, ça me permet de lutter contre l'inflation puisque ça réduit la demande. Et donc, lorsque j'augmente les impôts, je gagne je réduis le déficit public, je réduis l'inflation. C'est de la macroéconomie de base. Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement actuel a complètement perdu cette perspective. Et là, je pense qu'il y a une erreur énorme et qu'on voit aux élections, qu'on voit dans les comportements politiques.
Alors, je ne sais pas, je pense que l'ISF a laissé plus de traces dans les mémoires chez nous que chez les Espagnols. J'ajoute, pour vous faire réagir justement sur la notion de redistribution en temps de crise, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, il y avait les ministres de l'énergie réunis vendredi. Ils sont tombés d'accord sur le fait d'aller récupérer tout l'argent que gagnent les producteurs d'énergie hors gaz au-delà de 180 euros le mégawattheure, et également de taxer les compagnies pétrolières qui produisent des hydrocarbures ou qui raffinent, avec un taux d'impôt sur les sociétés à 33% appliqué sur la partie des profits jugés hors norme, c'est-à-dire qui dépasse de 20% la moyenne des 4 années précédentes. Et de l'ensemble de ces mesures, les 27 en espèrent 140 milliards d'euros qui servirait justement à la redistribution. On va dans le sens quand même de ce que vous dites.
Juste un mot, faut que ce soit décidé au niveau national, hein, parce que là c'est toujours pareil.
Ah ben d'accord, on se connaît les différents échelons européens, oui.
Non mais je veux dire, tout ça c'est des annonces, ça a été dit vendredi, il faut que ça soit mis en place dans les différentes législations nationales par les exécutifs ou les parlements nationaux.
Et ça bloque sur l'idée de plafonner les prix du gaz, parce que là l'Allemagne ne veut pas, elle l'aurait, ça lui coûterait beaucoup plus cher qu'à d'autres pays, notamment la France. Les signaux, alors plus largement, sur les signaux qu'on envoie dans un moment très particulier, parce qu'effectivement, c'est pas un peu d'inflation, c'est un sacré choc énergétique. Est-ce que ça justifie les mesures là, un peu techniques, parce que les super profits, c'est pas de la taxation à l'arrivée, c'est pas un outil fiscal, mais est-ce que ça justifie une mise à contribution de ceux qui peuvent. Et je vais même être très provocateur, est-ce que le gouvernement devait impérativement réindexer le barème de l'impôt sur le revenu pour permettre aux gens qui payent l'impôt sur le revenu de payer 6 milliards d'euros de moins qu'ils auraient payé.
Gens, c'est le cas de l'Espagne. Les gens sont toujours très forts pour créer des impôts nouveaux et pas très forts pour maîtriser la dépense publique et essayer de faire en sorte que les déficits n'augmentent pas. Donc, moi, j'ai toujours un problème avec la vision de taxation et pas la vision économie, sobriété, efficacité de la dépense publique et réduction de cette dernière, pas forcément pour des services dégradés d'ailleurs. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que juste pour que les gens comprennent, en fait, l'ISF, ça a été prouvé, il a des effets absolument délétères sur l'industrialisation du pays, sur la création de richesses, il fait fuir. Et donc, on sait que c'est un mauvais impôt. Et par ailleurs, dans une période d'inflation, si vous mettez votre ISF, je dis n'importe quoi, à 1%, 1,5%, je ne sais pas quel sera le barème inventé par les Espagnols, ça veut dire que le patrimoine des gens, juste pour qu'ils ne s'appauvrissent pas, doit être augmenté de ce barème plus de l'inflation. Donc expliquez-moi comment ils font. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué que votre patrimoine rapporte des taux qui permettent déjà de lutter contre l'inflation.
Mais là, le but, ce n'est pas de préserver leur patrimoine, c'est de le ponctionner.
Alors ensuite, sur la question remontée du barème de l'IR, moi j'ai une vision très très claire avec ça. Je pense qu'il fallait le faire, ne serait-ce que pour les tranches du bas. Parce qu'en fait, si vous ne le remontez pas, vous avez des gens qui vont rentrer dans l'impôt. Or, on est dans un pays où on a toujours dit les gens payent déjà la TVA quand ils consomment. C'est ça leur truc. Donc il faut absolument... Donc pour préserver ça, après, en haut... Est-ce qu'on peut faire un geste? Le problème de français, c'est que vous pouvez toujours accepter un geste temporaire quand vous avez la chance de ne pas avoir de problème de fin de mois, que vous avez du patrimoine, etc. Le problème en France, c'est qu'un geste temporaire est toujours un truc qui va rester, d'une part, et donc qui va aggraver notre coin social et fiscal et nos 57% de prélèvements obligatoires sur PIB avec lesquels, vous voyez, le jockey obèse qu'il faut être son cheval, quoi. Enfin, on n'y arrive plus, quoi. Et donc, on n'a pas confiance dans le fait que ce sera temporaire.
Hein. C'est vrai que sur le côté temporaire, on a du mal. Hein.
Voilà. Et résultat, on se dit, bon, ce serait acceptable si d'un autre côté, on nous disait, voilà le plan d'économie que je vais faire, qui va nous permettre d'afficher à la face du monde qu'on revient vers une orthodoxie budgétaire raisonnable qui permette de pas envoyer nos enfants avec un mur de dette à apurer. Voilà.
Juste un mot pour dire que le problème temporaire, il se pose aussi sur les baisses d'impôts sur les entreprises. Je suis désolé, ce que vous avez dit est très juste, mais ça marque aussi dans l'autre sens. Le gros problème que j'ai avec le CICE, la baisse de tous les impôts de production, etc., et vous l'avez très bien dit tout à l'heure tous les trois, c'est qu'après c'est impossible de les remonter ces impôts. Il y a une asymétrie politique et économique énorme entre les baisses d'impôts, notamment sur les entreprises, et les réaugmenter. Oui, et donc ça, on a un mur de dette publique. Il y a un moment, il va quand même falloir faire des choix.
Il est clair que, et vous l'avez évoqué du bout des lèvres, mais il est clair que si on veut réformer les retraites, c'est d'abord pour envoyer un signal à ceux qui nous prêtent de l'argent et pour éviter de devenir des Anglais qui sont à la limite de l'incident de crédit. Ils n'y sont pas. Et ça a pris quelques jours. Donc quand on va chercher 270 milliards, on ne l'a jamais fait pour l'année prochaine en refinancement de dette ancienne et en dette neuve. Et quelquefois, des petits signaux à envoyer. D'où l'urgence de cette réforme des retraites. Pas du tout à cause de son équilibre financier. C'est bien là le sujet. On marque une pause. Dans un instant, vous pourrez me dire comment vous voyez ce mouvement de redistribution globale qui est en train de s'opérer en Europe, même si c'est vrai qu'il va falloir avoir des feux verts au niveau national. Et puis, on évoquera justement la position de la France par rapport à ce qui se passe chez les Anglais. La Liz Truss vient de renoncer à une partie de ses baisses d'impôts parce que c'est tout simplement intenable. À tout de suite.